Aujourd'hui, nous allons parler du secret des noms. Bien entendu, correspondant au livre de Shemot que nous allons commencer, nous allons voir la définition de ce que représentent les noms d'une manière générale et d'une manière particulière dans la Torah et dans le livre des noms, le livre de Shemot. J'ai appelé ce cours Sod HaShemot HaBaim Mitzrayma, le secret des noms qui viennent en Égypte. En effet, la Torah ne nous dit pas que les enfants d'Israël viennent en Égypte. Si je cite le texte textuellement, il n'est pas mention de nom, d'êtres qui viennent en Égypte, mais de noms. Ve'ele Shemot, Bnei Israël Habaim Mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Donc si je me réfère au texte réel, il s'agit donc de noms qui viennent en Égypte et non pas d'hommes. Parce que si je voulais dire que ce sont des hommes qui viennent en Égypte, j'aurais dit Ve'ele Bnei Israël Habaim Mitzrayma. Voici les enfants d'Israël qui descendent en Égypte. La Torah ne dit pas ça. Elle dit Ve'ele Shemot. Voici les noms. Et le Zohar qui fait attention à cette différence dit, mais alors attends, ce n'est pas des hommes seulement qui sont venus en Égypte, ce sont leurs noms. Et là, on rentre dans un grand secret. Qu'est-ce que ça veut dire que des noms arrivent en Égypte? Des hommes qui arrivent en Égypte, je peux savoir ce que c'est. Ce sont des hommes qui étaient à un certain endroit dans le monde et qui arrivent dans le pays d'Égypte. Ça, je peux comprendre. Mais des noms qui viennent en Égypte, ça c'est déjà une notion qui me dépasse. Et c'est pour ça que je dois étudier le sens de cette descente en Égypte des noms.
Vous avez dit que ce n'était pas des hommes, c'était que des noms. Après, vous avez dit
c'est... Non, j'ai dit que ce n'est pas des hommes seulement.
Ce n'est pas
des hommes, mais ce n'est pas ce que la Torah mentionne là. Elle parle des noms de ces hommes. D'accord? Parce que la Torah est très... Medouillet qu'elle précise. Et si elle nous dit que ce sont les noms, il faut comprendre pourquoi. Donc je cite le verset, voilà comment commence le livre de Shemot. Ve'ele Shemot, Bnei Israël, Habaim Mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent. Alors, c'est pas au passé, c'est au présent. Ça veut dire que nous sommes face à une situation, et si je veux continuer donc dans la précision, ça veut dire que c'est quelque chose de constant. Et donc il faut que je comprenne de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'un nom qui vient en Égypte? Mitzrayma et pas les Mitzrayim. C'est-à-dire dans la direction de. Hashemot emsod ha'agdarot bekol makom. Première définition, c'est que le nom ou les noms, par définition, sont des définitions. Hagdara, donner en fait une limite, donner un sens. Quand je peux définir quelque chose, je suis plus près de l'avoir compris. Si je ne sais pas définir une chose, cette chose est encore loin de moi. La capacité que j'ai à définir montre que j'ai compris le sujet, beaucoup plus que quelqu'un qui ne sait pas le définir. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça veut dire que si vous ne savez pas mettre des mots pour définir quelque chose, ne serait-ce qu'un sentiment, ça veut dire qu'en réalité, ce sentiment n'est pas encore très compris. Si j'arrive à définir les choses, à les cristalliser dans une phrase, dans un mot, c'est que les choses deviennent claires.
Un sentiment, c'est pas indéfinissable ?
Non, on peut définir un sentiment. Quelqu'un qui se sent bien, il peut dire « je me sens heureux ». C'est une définition.
Heureux, c'est aussi très
après. Mais au moins, il y a une expression qui sort de sa bouche. C'est pas dire « je ne sais pas comment définir ce que je ressens ». C'est beaucoup plus loin. Donc, si c'est trop élevé, trop loin de moi, j'ai du mal à le définir. Donc, toute chose qui n'est pas définissable clairement dans ma bouche, c'est que cette chose est encore très loin de mon acquis. J'arrive pas à l'intérioriser.
Une immense joie, par exemple.
C'est pas grave, tu peux dire une immense joie, c'est déjà pas mal. J'ai déjà compris.
Ouais, mais des mots, c'est pas rabaisser la chose avec quelque chose de...
D'un côté, c'est rabaisser, mais rabaisser veut dire aussi dévoiler. Ça veut dire que je peux rester avec des notions très profondes et ne pas parler. Vous êtes d'accord que le cours est beaucoup plus élevé. Je viens ici, je vous regarde. Il est déjà écrit. Moi, j'ai fait le travail. Donc, je veux pas le rabaisser. Qu'est-ce que je fais? Je me tais. Ça vous arrange?
Non.
J'ai besoin, en fait, de rabaisser, entre guillemets, en disant des mots pour définir la pensée que j'avais quand j'ai écrit ce livre, ce texte. Donc, si je ne le fais pas, il y a un problème.
Il y a des moments où, comme le mariage, où ça faudrait mieux que ça passe en silence, parce que c'est mettre des mots dessus,
c'est
des...
Alors, il y a des choses qui doivent passer en silence, mais la plupart des choses dans ce monde doivent passer par le verbe. Pourquoi? Parce que l'homme est défini en tant que celui qui parle. Quand Dieu a créé l'homme, Ken, Vayi, Adam, le Nefesh Chaya, lorsque la Torah nous dit qu'il est devenu un être vivant, eh bien, Onkelus nous traduit Ruach Memalela, un souffle qui parle. Autrement dit, tant que tu n'es pas un souffle qui parle, tu n'es pas encore un homme. Donc tu as un problème. Et donc, l'homme se définit par sa capacité à s'exprimer, à parler. Adam et Ève ne se sont pas parlé. La Torah ne mentionne aucun dialogue entre eux. Regardez la catastrophe qui en a découlé. Alors, apprenez en fait à parler. Apprendre à parler, c'est devenir un homme. Toda. C'est là?
Ah, si elle l'a fait, si elle lui a fait manger la pomme, elle n'a pas parlé pour ça?
Non. La Torah ne me raconte pas un dialogue. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, je me réfère à ce que la Torah me dit. Si la Torah mentionne un dialogue, c'est qu'il est important pour moi. Si elle ne le mentionne pas, c'est que ou il n'a pas eu lieu, ou bien c'était des bêtises. Ce n'était pas un niveau qui construit quelque chose. Or, la Torah est une prophétie. Ce qui a été retenu dans la Torah, comme le texte qu'on connaît aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui fait avancer le processus. Si ça ne fait pas avancer le processus, la Torah ne le marque pas. D'accord ? Par exemple, la Torah a sauté 40 ans, 38 ans de désert. Elle n'en parle même pas. Pourtant, les gens se sont parlé là-bas. Même Moshe Rabbeinu a parlé, d'accord ? Mais ce n'est pas important pour faire avancer le processus du divin, donc ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est une règle. Nevoa shehutzrecha ledorot nichteba. Seule une prophétie qui nous importe a été mentionnée et retenue dans le texte de la Torah. Toutes les autres paroles, non. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on va retenir de votre vie, vous aussi, c'est ce qui aura fait avancer le processus du dévoilement de l'infini sur Terre. C'est ça la chose la plus importante. Et si tu as fait autre chose dans ta journée, bon, ça peut être important, mais ce n'est pas assez important pour être mentionné dans un texte de la Torah qui s'appelle une prophétie. Alors, on est en train de dire, là, que les noms des enfants d'Israël, donc je prends que les noms, c'est eux qui viennent en Égypte. Et donc je cherche à comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un nom qui vient en Égypte? Mais d'après ce que je viens de vous dire, vous êtes déjà un petit peu plus apte à comprendre. Un nom qui vient en Égypte, c'est-à-dire un nom qui n'arrive pas à s'exprimer. Il est enfermé dans une notion qui s'appelle prison. Traduisez le mot prison, c'est une étroitesse. Ça veut dire on t'étouffe, on te ferme. Mitzraim, c'est en réalité traduction littérale de l'étroitesse, Meitzar. Tsar, c'est être à l'étroit. Metzarim, des étroitesses, Mitzraim. Donc, qui est mis en étroitesse en Égypte? Les noms. Donc, la capacité à définir. Donc, tu ne sais plus dire. Tu as du mal à dire. La maladie. Donc, en réalité, l'Égypte est une grande maladie. Et donc, sortir d'Égypte, c'est guérir de ta maladie. de ton incapacité à dire. Vous êtes avec moi? Écoutez bien. Et il y a une bénédiction de santé qui nous dit Kol ha-machala, toute la maladie, asher samti be-mitzrayim, que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, ki ani adonai rofecha. Je ne le mettrai pas sur toi car je suis ton guérisseur. Autrement dit, la première maladie de laquelle il faut guérir en Égypte, c'est quoi? La parole. D'accord? Car on a dit que ce sont les mots qui sont en prison. Ce sont les mots qui ont été emprisonnés. Donc comment va s'appeler la fête qui va se référer à la guérison du manque de parole? Pessah, qui veut dire la bouche qui parle. Pessah. Donc, dès que je sors d'Égypte, la bouche s'ouvre. Vous comprenez? Autrement dit, tout le moment où on était en Égypte, dans cet exil, qui était fermé en fait? La parole, le verbe. Or, si Israël, c'est le verbe qui dévoile Dieu dans le monde, si ces hommes-là sont emprisonnés en Égypte, qui ne se dévoile pas? Le nom d'Hachem dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas encore dans l'histoire réellement, tant que les noms et les enfants d'Israël sont en Égypte. Dès qu'Israël va sortir d'Égypte, immédiatement Dieu peut descendre entre guillemets sur terre. Ça va s'appeler le don de la Torah.
C'est quoi ces noms en fait?
D'accord? Les athlètes, on n'a pas encore défini.
Pourquoi justement ils n'ont pas cette capacité à parler?
Parce que l'Égypte, c'est en réalité un degré qui t'étouffe.
Non, mais là, ils ne sont pas arrivés encore en Égypte, ils sont déjà à
Non. Non. Ve'el et Shemot Bnei Israël Haba'im Mitzrayim. Ça y est, maintenant ils sont en train de descendre. C'est au présent. C'est un présent continu. C'est-à-dire qu'il y a un problème, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de faire attention au temps. Ce n'est pas seulement du passé, chez Baou, et Haba'im. C'est au présent. Ça veut dire que nous avons toujours ce même problème qui peut revenir. Il y a des moments dans ta vie où tu n'arrives pas à t'exprimer. Et donc tu deviens en fait muet, tu rentres dans un certain mutisme de ton être. Dans cette situation-là, tu es dans une certaine maladie, parce que tu n'arrives pas à t'exprimer. Donc il va falloir que tu t'exprimes pour guérir par des mots, M-O-T-S. Qui vont guérir tes mots M-A-U-X. Ok? Donc, il va falloir apprendre à parler. Et la première chose dans ce monde, c'est l'apprentissage de la parole pour redevenir l'homme que nous sommes. Et si un homme est muet, vous vous rappelez que le mot muet en hébreu se dit « il aime », il devient automatiquement violent. Alim. Il aime, alim. C'est-à-dire la violence est souvent un résultat de quoi? Du manque d'expression de l'homme. Il ne sait pas s'exprimer par la bouche, donc il va s'exprimer par ses mains.
Souvent ou même tout le temps?
Très souvent. Donc la alimut vient de la ilmut. Le manque d'expression, quand tu n'arrives pas à dire les choses, c'est obligé de sortir et ça sort d'une manière violente.
C'est pas ça le Hitler, on dit que ça
avait très bien parlé. J'ai pas dit qu'il n'y a pas des exceptions. Je dis d'une manière générale, c'est ce qui se passe chez un homme qui a un mal parce qu'il est étouffé avec plein de sentiments qu'il n'arrive pas à exprimer. Et donc la psychologie a découvert ce système, c'est de faire parler. Et quand tu parles, tu commences déjà à guérir. Tu t'exprimes, tu ouvres cette boîte de Pandore où il y a tous les problèmes du monde. Quel?
Dans Michel, il n'y a pas écrit Bureau des Varim et Adal Pécha, le concert se fait à Maskim.
D'accord? Ça veut dire qu'il faut savoir ce que tu dis. C'est pas parce qu'on t'a ouvert la bouche que tu dois blablabla. Bla 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 bla. Hein? Il faut que tes mots soient précis et il faut qu'ils soient définissant quelque chose de réel. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les gens qui parlent et qui parlent et qui parlent, mais en réalité, ils ne font rien avancer, ça, c'est pas mentionné dans la Torah. Donc en fait, vous avez un barème de mots, une limite de mots dans votre vie, dans une boîte. Et quand vous avez fini d'utiliser ces mots, il faut partir. Donc il faut faire très attention combien on gaspille ces mots-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Et tant que tes mots ne sont pas très clairs, ne sont pas précis, tu vas faire beaucoup d'habillage autour pour combler ton manque. Mais quand ta parole devient précise, une seule parole suffit pour définir la chose. Tu ne bégayes pas parce que tu sais ce que tu vas dire. Qui bégayait en Égypte? Moshe Rabbeinu. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani Arel Sfataim, j'ai un problème au niveau des lèvres, je ne peux pas m'exprimer. Pourquoi? Parce que mon peuple est en exil, donc il a un problème. Fais-moi sortir d'Égypte, je commencerai à parler. D'ailleurs, il sort d'Égypte et immédiatement, Az Yashir Moshe. On ne parle même plus de son problème. Autrement dit, Moshe Rabbeinu bégaye parce que le peuple d'Israël lui-même est dans une incertitude. Et comme il est équivalent à tout le peuple d'Israël, il a en fait la maladie du peuple. Tout le peuple d'Israël est dans un étouffement global au niveau de son verbe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas encore jouer son rôle dans l'histoire. Quel est le rôle d'Israël dans l'histoire? De raconter à Kadosh Baruch Hu, de dévoiler les valeurs d'Hachem. Si tu ne fais pas ce travail, ça s'appelle que tu es en Égypte. Maintenant, vous avez compris? Est-ce que je peux être en Égypte même aujourd'hui? Oui. Maintenant, vous avez compris le système. C'est-à-dire, l'Égypte, ce n'est pas seulement un pays, c'est un état de conscience. Si tu es dans un étouffement, tu n'arrives pas à t'exprimer, ça s'appelle un état d'Égypte, un meitzar, et tu dois sortir, mina meitzar karatia. Fais-moi sortir, j'ai envie de crier. Anani bamerchavia. Et Akadosh Baruch Hu va te répondre. Donc la matza, comment est-ce qu'elle s'appelle? Lechem? Oni. Qu'est-ce que c'est Oni? La réponse. Le pain, pas seulement de la misère, comme on vous l'a traduit jusqu'à aujourd'hui, mais le pain de la réponse, l'echem sha'onim alav, c'est-à-dire un pain qui t'ouvre la bouche, qui te permet de t'exprimer. Et comment est-ce qu'on va appeler le livre que nous allons lire à Pessah? Haggadah. Qu'est-ce que c'est Haggadah? Les Haggid, parlez. Vous voyez donc que toute la fête de Pessah est liée à la parole, à la bouche. Magnifique. Et toutes les mitzvot de Pessah sont liées à la bouche. Tu dois dire certaines choses et tu dois avaler certaines choses. C'est tout. Et là se trouve le secret. Donc si je devais maintenant définir le membre du corps humain qui correspond à l'exil d'Égypte, c'est la bouche. En Égypte, elle est fermée. Et si la bouche est fermée, ça veut dire qu'en fait, ton mental n'arrive pas à sortir par ton verbe. Parce que ta pensée, elle existe. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de s'exprimer. Donc tu es dans un problème d'étouffement intérieur. Et tu es obligé maintenant de guérir de cette maladie.
C'est quoi qui l'empêche?
Là, on n'a même pas commencé le texte. Mais je vous explique oralement avant de passer au texte. C'est bien? Alors, Ve'el Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayim. Hashemot, donc les noms, Hem Sod Ha'agdarot Bekol Makom. C'est le secret des définitions partout. El Hashebeshla Barishon. Cependant, au premier degré, à la première étape, Hem Ba'im Mitzrayim. Ces mêmes mots, ces mêmes définitions sont emprisonnées. Elles sont en Égypte. Elles sont étouffées. Elles ne s'expriment pas du premier degré. Combien de temps il faut pour un bébé pour commencer à définir? 2 ans. Pour commencer à parler vraiment. D'accord? Ça veut dire que pendant 2 ans, le bébé a envie de dire des choses et il sort des sons, des voix. Il a envie de raconter plein de choses. Et toi, tu te dis, mais il a plein de choses à dire.
Non, mais il n'a pas encore le mental, non?
Justement, ça veut dire que la bouche n'est pas un membre qui est séparé du cerveau. Et c'est pour ça que, comment je vous ai défini tout à l'heure la parole, un souffle qui parle. C'est pas une bouche qui parle. La bouche, elle ne parle pas. C'est un esprit qui utilise la bouche pour parler. On n'a jamais vu une bouche qui parle. C'est votre esprit qui parle. La bouche est un instrument de l'esprit. Habechina mechuna shem. Donc, la qualité, le degré qui s'appelle shem, qu'est-ce qu'il donne, d'après vous, d'après ce qu'on vient de voir?
La parole.
Oui, mais pourquoi faire? Il y a fait une définition. Donc, pour définir, il faut que j'ai une direction de pensée. D'accord? Il faut que j'aille quelque part. Comment on dit là-bas? Sham. C'est les mêmes lettres que le mot Shem. Ça veut dire, dès que je définis un nom, j'ai un là-bas. On est ensemble? Ça veut dire que quand j'arrive à donner le nom de quelque chose, mettre un nom sur quelque chose, en français on appelle ça appeler un chat, par exemple. Dès que tu arrives à faire ça, tu as donné une direction à l'objet ou à l'être vivant que tu es en train de définir.
C'est quoi une direction?
Ça veut dire que tu dois savoir ce qu'il est. Normalement, en définissant une chose, je dois savoir en fait toute sa structure moléculaire, tout son système. Exactement. Chazak ou Baruch, je voulais que quelqu'un arrive à le trouver tout seul. Et c'est bien que tu as touché le point. C'est ce qu'Adam Arishon a fait. Akadash Baruch Hu, il a posé des êtres devant le premier homme et il lui a dit, vas-y, donne-leur un nom, on va voir si tu es capable de les définir, c'est-à-dire de les faire vivre. Grâce au nom que tu vas donner, ils vont commencer à s'animer. Autrement dit, la vache, avant que Adam Arishon ne la traite de vache, elle était inerte. Elle était gelée. Elle ne bougeait pas. Et donc, Adam Arishon a dit à la para, para. Pourquoi? Parce que dans son intelligence adamique, il avait la capacité à savoir toute la structure de la vache. Ce qu'on a perdu aujourd'hui. Autrement dit, dans le mot para en hébreu, je dois savoir, avec les trois lettres que ce nom comporte, étudier tout le système de ce que représente une vache dans mon monde. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire parce que ça va très loin. C'est-à-dire même la structure moléculaire de la vache et tous les composants de cette vache sont uniquement dans ces trois lettres para. Alors dans ces trois lettres, il y a bien entendu la valeur numérique, il y a bien entendu le poids, il y a bien entendu la notion de ce que ça représente. Par exemple, para veut dire prix, un fruit. Donc c'est le plus gros des fruits au niveau animal. D'ailleurs, au niveau du végétal, ça s'appelle perot. Et au niveau animal, ça s'appelle parot. C'est presque pareil. Et ça veut dire en même temps se fructifier, se multiplier. Para, peru, urvu. Ça vous a même donné une naissance à une fête que vous ne savez pas peut-être son nom, Pourim. Ça veut dire Pourim vient du mot para. Mais comme tu ne sais pas, ça devient du paranormal pour toi. Alors que c'est un grand paradoxe. D'accord? Quel? Ah, ça c'est encore une autre fête. On ne va pas rentrer maintenant dans Pourim. Mais je voulais juste gratter un petit peu votre curiosité. Quel?
Dans le nom, il y a la totalité de l'être. Mm-hmm. Pas une seule partie qui nous...
Exactement. Il y a la totalité de l'être. Et donc, si tu sais définir quelque chose, il y a la totalité de la chose. Maintenant, est-ce que tu connais ton prénom? Tu le connais pas. C'est-à-dire, on t'a donné, on t'appelle, mais tu sais pas en fait ce que ça veut dire. Et là, je suis en train de te révéler un grand secret. Si tu étudiais ton prénom, tu saurais toute sa structure intérieure de ce que tu es.
Comment
étudier? Vous comprenez ce que c'est maintenant les noms? Quelle est l'importance des noms? Il n'y a rien d'autre en fait dans ce monde. Parce que toute la Torah, ce sont quoi? Que des noms. Donc ce sont des combinaisons de lettres qui ont donné des noms. Et donc si j'étudie la Torah, j'étudie les noms. Et en étudiant les noms, je peux définir ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que je dévoile dans ce monde. Et si je ne comprends pas l'étude de la Torah, eh bien ça devient des noms, N-O-N. Quel?
On utilise que
Mashiach
va redéfinir.
Nahon. Il a fait. Il a fait. Pourquoi tu as parlé du Mashiach?
Parce qu'on dit va revenir à Adam, quoi.
Qu'est-ce que veut dire le mot Mashiach en hébreu? Celui qui parle. Sicha. Sicha. Vous savez ce que c'est une sicha? Une conversation. Mashiach, c'est celui qui a des conversations. C'est tout. Mashiach. Ah, donc il va redéfinir en fait toutes les données que vous ne savez pas jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, dans le niveau de l'étude de la Torah, vous avez l'impression que Pourim c'était 1, 2, 3. Et maintenant le Mashiach va te dire que Pourim ça veut dire 3, 4, 5. Et tu vas te dire, oh là là, j'ai jamais pensé à ça. Ça veut dire que la Torah du Mashiach, en fait, c'est quoi? C'est la Torah de la nouvelle Hagdara, définition des noms. C'est tout. Il va nous redéfinir ce qu'on a pensé être déjà défini. Donc fini. Et le Mashiach va te dire, mais tu n'as rien compris, ou en tout cas, tu n'as pas tout compris. C'est bien? Sicha, ouais.
C'est pas avec un salaire?
Non, avec un sin. C'est bien? Comme Mashiach. Siach. Siach Hassadé. Le langage des arbres.
Il y a tout le temps une nouvelle définition ou
il y a toujours une nouvelle définition parce qu'en réalité, ça vient de l'infini, donc de l'indéfinissable. Alors là, tu touches un point extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est défini?
Non.
Non. Et pourtant, il nous a donné une Torah qui est remplie de
définitions,
de noms.
C'est
ça le nom, Ehyeh Asher Ehyeh. Ça veut dire Ehyeh Asher Ehyeh veut dire. Pas comme en français, je serai celui qui sera avec une belle voix de Moïse Ken dans le film. C'est pas ça, tous ces inyanim. Ça veut dire, il y a toujours encore, je serai toujours dans un avenir. Ehyé, c'est moi au futur. Je serai. C'est-à-dire, il y a toujours encore quelque chose à découvrir parce que ça vient de l'infini. Donc, Shem, Hu, Sod, Agilui, Vahabitu, Yapnimi, Shel, Kol, Abriot. Donc la définition de tous les êtres dans ce monde, ce n'est que Shem, qui est Sham. Et donc tu touches à l'essence des choses. Parce que Sham, c'est la racine du mot Shamaim. D'accord ? Qu'est-ce que c'est Shamaim ? Les cieux, qu'est-ce que ça représente ? Les idéaux. D'accord ? Shamaim, c'est juste une expression. On sait bien que ce n'est pas le ciel que vous voyez. Pas que. Ça veut dire définir des choses très élevées. Comment on dit les choses de ce monde ? Eretz. D'accord ? Pourquoi ça s'appelle Eretz ? Quelle est la racine ? Rotze. Ratson. C'est-à-dire que tu sais déjà ce que tu veux. Donc c'est déjà beaucoup plus palpable. Mais quand tu es dans le Shamaim, c'est loin. Comment s'appelle l'école de la Torah qui est très 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 loin de nous?
Shamaï.
Shamaï. Maintenant vous comprenez pourquoi. La Halakha ne peut pas pour l'instant être comme Beit Shamaï parce qu'ils sont trop élevés. Mais à la fin des temps, quand le très élevé va descendre sur terre, eh bien la Halakha sera comme Beit Shamaï. Ils arrêteront de se chamailler. Ah, c'est de là que ça vient d'ailleurs. D'accord ? Alors Hillel, quelle est la valeur numérique de Hillel ? 65. Quel est le nom d'Hachem qui correspond à 65 ? Adon. C'est-à-dire le nom de ce monde. Donc Beth Hillel, c'est la halakha dans ce monde. Comprenez ? C'est très très précis la Torah. Il faut juste savoir que tout est codé. Donc, Yeridat Hashemot le Mitzrayim. Maintenant, on revient à notre définition. Ce sont les noms qui sont descendus, ou plus exactement, qui descendent en Égypte. On est d'accord. Alors, pourquoi ces noms descendent en Égypte? D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-bas? Alors, on a dit d'abord qu'ils sont étouffés, mais en même temps, ils vont chercher à se redéfinir. Il y a fait mal. Et pourquoi il faut aller en prison pour se redéfinir? Parce que dans la prison, en fait, tu es dans un tzimtzum. C'est-à-dire dans une étroitesse. Ça veut dire que tu n'as pas trop de possibilités. Donc on va te réduire toutes les possibilités à une, deux, trois, et tu pourras t'exprimer. Donc plus on va réduire tes possibilités, plus tu pourras définir un mot. Même si ce n'est pas encore un super mot. Mais il va commencer à t'aider à définir les choses. Donc tu es censé sortir d'Égypte quoi ? Plein de noms que jusqu'à maintenant n'ont pas encore été définis. Où est-ce qu'ils sont tombés dans les oubliettes de ce monde ? Quel ?
On n'a pas eu besoin de cette redéfinition, de ce raccourcissement. Apparemment, il y avait des définitions avant.
Nahon, ça veut dire qu'en fait, la faute de l'homme, et maintenant je rajoute une couche, la faute du premier homme, qu'est-ce qu'elle a fait en fait ? Elle nous a fait oublier quoi ? Les définitions des choses. À tel point qu'aujourd'hui, on dit et on ne sait même pas ce qu'on dit. Nahon, combien de fois tu dis à quelqu'un de sadique, comment tu vas ? C'est le Rav, c'est le Gaon, c'est le machin, c'est un, on dit dans des titres. Tu crois vraiment que c'est un sadique ? Pour arriver à être sadique, il faut être comme Yosef. Bien, alors, c'est tout et n'importe quoi aujourd'hui. On ne sait plus donner les noms des choses. D'ailleurs, on est tellement à l'envers qu'on parle le verlan. C'est-à-dire, tout est à l'envers. C'est même plus les vraies définitions. Tu fais la teuf. Tout est à l'envers. Olam hafouch ra'iti. Tu n'arrives même pas à définir. Et même dans le manque de définition, c'est encore à l'envers. C'est le contraire du contraire. Donc il faut tout remettre en place pour arriver à une Géoula. Géoula, en fait, c'est une rédemption de qui ? Des noms. C'est tout. Donc le nom Shem, c'est l'essence même de la Géoula. Et qui on appelle Shem ? La royauté de Dieu. Baruch Shem, Kevod, Malchuto. Tant que le nom d'Hachem n'est pas révélé, il est dans une profanation. Comment on dit profaner le nom d'Hachem ? Chilul Hachem. Et qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour sortir du Chilul Hachem ? Kiddush Hachem. Comment vous écrivez Hachem ? Ah, il a fait. He Shinmen. Attention de ne pas écrire He comme Hachem. Tu ne peux pas profaner Dieu, tu peux profaner son nom, c'est différent. Attention, les gens qui ne voient pas la différence ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter. Est-ce que vous pouvez profaner Dieu ?
Non.
Non. Vous pouvez profaner son expression, c'est-à-dire son nom.
On ne peut pas le définir pourtant.
Il a fait. Et il nous a pourtant donné, et c'est ça le paradoxe, une Torah entière qui n'est que des noms, que des définitions. Et il me dit, ça, c'est à ton niveau. Fais-le. Dibra Torah kilshon bnei Adam. La Torah nous parle un langage humain que tu peux comprendre. Quel ?
Pourtant, les sodes, ils sont cachés.
Les sodotes. Ça dépend. Ils sont cachés momentanément.
Bah, dans les livres, par exemple, comme le Zohar et tout ça, il y a très peu de noms pour des grandes
expressions. Ça veut dire que plus tu grandis dans la compréhension de noms, plus tu as besoin de quoi ? Juste de... De quoi ?
De peu de noms.
Il y a fait de racheter votre. On te donne juste un petit détail et toi déjà tu comprends. C'est pour ça que les kabbalistes sont en fait créés un langage à eux. Et tu peux rentrer dans une yeshiva de kabbalistes et tu vas rien comprendre, même si tu parles couramment l'hébreu. D'accord ? Parce que là-bas, le langage n'est pas un langage que tu connais. Hein, on va te dire Ak Midgale Beza Venouk. Qu'est-ce que ça veut dire? Même un Israélien de base, rien du tout.
Il a juste à apprendre les définitions.
Il a fait. Donc là, encore une fois, il y a un langage à réapprendre une définition. C'est un langage. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça ne sert à rien d'apprendre l'hébreu pour arriver à ça. Ça, c'est autre chose encore. C'est encore un autre langage, c'est un autre ulpan. Mais les athlètes, Bezrat Hashem, c'est la Torah que Mashiach va venir révéler. Et aujourd'hui, il faut d'abord comprendre l'essence des choses, et c'est ce que j'essaye de faire avec vous ici, pour vous préparer à cette Torah messianique, Bezrat Hashem. Parce que si vous ne savez pas, Bichlal, ce que représente un nom et une définition, et vous vous plongez directement dans l'étude, Alors c'est sympathique, mais tu engranges des connaissances et tu ne sais même pas la source des choses. Vous voyez donc l'importance du livre de Shemot, c'est-à-dire c'est le premier livre en fait de la Torah où l'histoire réelle commence. Avant c'était de la préhistoire. Donc la véritable histoire commence à Shemot. Comment s'appelle le livre d'avant? Bereshit, c'est-à-dire la tête. Dans la tête je ne comprends rien, Roche. Tant que le Roche n'est pas exprimé en Shemot, je ne peux rien faire. Non, si le nom qui était dans ma tête commence à s'exprimer en Shemot, je peux commencer à appeler. Quel est le prochain livre? Vaikra. D'accord? Et si j'appelle, je parle, Bamidbar. Et une fois que tu parles, tu peux en fait concrétiser Dvarim. Toute la Torah est là. Je vous vois gesticuler, c'est quoi? C'est un kiff ou... Ça va?
Ouais.
Ça te plaît?
Ouais.
Ok. Baruch HaShem. C'est ça le union de la Torah. Donc faites attention à tout ça. Et ça, c'est le nouveau livre de Shemot. Il y avait une question là?
C'est quoi la différence entre appeler et parler?
Il y a fait. En hébreu, quand tu parles, tu appelles. C'est ça la force. Et c'est bien que tu aies posé cette question. Par exemple, comment on dit je lis un livre? Anikore. Basefer. Donc, quand tu lis un livre, qu'est-ce que tu fais en même temps? Tu l'appelles. C'est-à-dire, tu fais appel aux lettres qui sont à l'intérieur de ce livre, avec toutes les connaissances qui sont à l'intérieur de ce que tu es en train de dire, et tu fais sortir tout ça du texte. Donc, tu les interpelles, tu es interpellé. Et c'est ça l'ikro. En français, lire, c'est pas dire. En hébreu, l'ikro et l'ikro, c'est la même chose. Donc quand tu sais l'ikro, l'emishéou, quand tu sais appeler quelqu'un, c'est que tu en réalité, tu l'as invité, tu as lu son code génétique. J'arrive à te lire, donc je t'appelle. C'est bien?
C'est la même chose.
Alors, et Bamidbar, c'est en fait toutes les formes d'expression.
Un Vaïkra, c'est juste un...
C'est appeler, appeler un degré.
D'accord.
Comment est-ce qu'on appelle ça en fait, tout ça? Yetziat Mitzrayim, donc la sortie d'Égypte. Hi, chazaratam, achzaratam, shel kol otam nitzotzot, shel kodesh, shel gvulot atov, vachrechem yetzou berchush gadol. Qu'est-ce qui est écrit concernant la sortie d'Égypte? Que... Akadosh Baruch Hu va faire descendre la descendance de Abraham, c'est dans Brit Ben Abetarim, et après il leur dit Vacharechen, et après cela ils sortiront Berechush Gadol. Traduction? Avec une grande richesse. Et donc qu'est-ce que c'est que cette richesse? La parole. Donc ils vont gagner la parole. Effectivement, 50 jours après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on a gagné? La Torah. Donc, toutes les paroles sont redéfinies. Alors, je vais plus loin. Et où elle était donc la Torah avant qu'elle ne soit donnée?
Dans les cieux.
En Égypte. C'est-à-dire étouffée dans les oubliettes. Sortir d'Égypte, c'est donc libérer qui?
La Torah.
La Torah elle-même. Et donc, on a libéré les noms.
Ah, on est la Torah elle-même.
Il y a fait. Israël, Oraita, Vekucha Berichu, Chad Behon, dit le Zohar. C'est une seule et même chose. Ken.
Si Dieu il a entendu l'Éternel d'Israël quand il était en Égypte,
Ken.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient parler, enfin, ils ont commencé à parler.
Non, il y a marqué qu'ils ont crié. Vaïtsaku, vaïzaku, comme des animaux, c'est marqué en plus. Il n'y avait même pas de parole. C'était comme des animaux qui muaient. Terrible. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu le lendemain de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'on apporte comme corban? Omer, le lendemain. Oui. Comment on l'appelle dans la Torah? Omer ha tenufa. Qu'est-ce que c'est tenufa? Tenupe. Donnez-nous une bouche, on n'a pas de bouche. C'est bien? Et à Kadosh Baruch Hu leur dit Pesach. Psaha. Pesach, vas-y. Ok.
Si un peu de Torah, il y a eu la redéfinition de ces noms alors.
Il a fait Mitsuyan. Pourquoi donc le don de la Torah n'est pas l'événement Geoula?
ça aurait pu l'être. C'est oui. Qu'on a fait Vodor après.
Non. Non.
Ils étaient impurs.
Non.
Ils ont pas vu après.
Non. Qu'est-ce que Dieu dit au moment du don de la Torah? De quoi il parle? La première chose, quand il va leur donner la Torah? Non. Rashi pose la question. Ma inyan shmita etzel har sinai. C'est-à-dire la première parole de la Torah, c'est quoi? La shmita, c'est-à-dire la terre d'Israël. Donc il manquait la terre d'Israël, on ne pouvait pas encore avoir la Geoula Shlema. Donc voilà ta réponse. Tu ne peux pas avoir de Géoula si tu n'es pas sur ta terre. Donc même la Torah, ce de quoi elle parle en premier, c'est la terre. Et Rashi pose la question, qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Tu es en train de me donner la Torah, tu me parles de la Shemitah.
Voilà, c'est pas
ça veut dire que ce n'est pas encore complet. Cette Torah, ces noms qui sont sortis d'Égypte et qui sont en train maintenant de couler sous la forme de la Torah, doivent arriver où? Sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu géographique de ce monde dans lequel et par lequel Am Israël va exprimer à Kadosh Baruch Hu. Ki mitzion tetzé Torah. Udvar Hashem mi Yerushalayim. C'est précis. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses. Okay?
Pourquoi on n'a pas reçu la Torah en Israël?
Bien fait. Pourquoi on n'a pas reçu la Torah en Eretz Israël? Parce que si on était déjà en Eretz Israël, on n'aurait même pas eu besoin de la recevoir. Pourquoi? Parce qu'on aurait en réalité vécu la Torah naturellement. Comme Abraham, Yitzhak et Yaakov.
On a dû la recevoir
parce qu'on s'est éloigné en fait de notre véritable structure intérieure. Il fallait nous rappeler qui nous étions.
On a dû tout simplement rentrer en Israël.
Vivre la Torah, pas l'étudier. Vivre la Torah. C'est une grande différence entre étudier la Torah et la vivre. Parce que malheureusement, il y avait un décalage total. Combien Bichlal sont sortis d'Égypte? 20%. Dans le meilleur des cas, dans la Gemara. Ça veut dire 80 personnes ont dit à Moshe Rabbeinu, tu es un embrouilleur. Qu'est-ce que tu nous racontes? Dégage. Bouge de là. Et Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais attends, je suis Moshe Rabbeinu. Enfin, lui, il dit pas je suis Moshe Rabbeinu. Je suis Moshe. Et ils lui disent, mais on s'en fiche, c'est qui Moshe? Imagine-toi, toi aujourd'hui, Moshe, il arrive, il te dit, je suis Moshe, qu'est-ce que tu fais? Tu lui embrasses les pieds, non? Là-bas, non? Moshe donne un cours à 20h ce soir. Il y a des annonces sur les arbres. Il y a marqué au lieu de machin, wanted, à tuer. Il y a deux ou trois personnes qui viennent au cours. Veloch Shamuel Moshe. Ils peuvent même pas écouter Moshe. Mikot Seruach. Ils ont tellement le souffle court, mais Avoda Kasha, ils ont même pas envie de l'entendre. Toi, tu donnes aujourd'hui un cours de Moshe Rabbeinu au côté. Combien de personnes arrivent? Vous fermez tout le machon, machon. Quel?
Le Vaudor, ça a quand même aussi bouché.
Pas grand chose. Vaudor, c'est une histoire de 3000 hommes, pas plus. Quel? Il ne faut pas lui donner une trop grande importance. Comme ça dit le Kuzari, Rabbi Houda Alevi. Quel? Il n'y a que 3000 hommes qui ont fauté réellement dans ce Vaudor.
Quel? Le Kuzari, il dit que c'est en Israël, non?
Quoi? Nachon. Il dit qu'en réalité, l'essence, elle vient de Eretz Israël, de Har HaMoria. L'essence de la Torah, le don de la Torah, il est fait en Égypte, mais l'essence, elle vient toujours d'Eretz Israël, ça ne peut pas venir d'ailleurs. Kadosh Baruch Hu, quand il descend sur terre, il ne peut pas venir ailleurs que de cette terre. C'est ça en réalité le verbe. Le verbe d'Akadosh Baruch Hu, l'expression d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ne passe que par ce canal.
Okay. On
ne
dit pas qu'on a retrouvé entre guillemets le niveau du
Gan Eden. Mais comme Bechina en hébreu. Bechina, c'est-à-dire.
On a goûté,
c'est un semblant d'eux. Tu as raison. Nachon, c'est censé en fait terminer tout le programme. Rentrer avec cette force-là en Eretz Israël, on termine le travail. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a un décalage. Et même quand tu as reçu un truc immense comme ça, tu sors du shiur. Là, le shiur, c'est quoi? C'est Matin Torah. Imagine-toi, les gens, ils sortent du shiur de Matin Torah. Qu'est-ce qu'ils font après? Le vaudor. Comment tu peux faire un vaudor après un shiur comme ça de Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, son et lumière? Tu es débile. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un grand décalage entre la volonté de l'infini et la capacité de l'homme à être au niveau. Ouais. Donc il y a toujours un petit décalage.
Alors est-ce qu'on est capable d'être connu? Est-ce que Dieu ne nous a pas créé avec une incapacité à dévoiler ce qu'il
fait? Non, il nous a créé avec la capacité de dévoiler, mais ça prend du temps. Ça s'habille dans le temps. Et il faut un grand travail. Et ça prend 6000 ans. Donc on est à la fin de ces 6000 ans maintenant. On va rentrer dans le Shabbat.
3000?
Non. 3000, c'est encore, c'est un autre degré. C'est après le Shabbat déjà. Donc ce n'est pas de ce compte. D'accord? C'est un autre compte. Ce qu'on appelle Gar. Pour continuer les expressions de Kabbalah que tu ne comprends pas. D'accord? Là, on est dans Zat. Tu as compris? Ce n'est pas de l'hébreu, mais ce n'est pas grave. Ok? Alors, on continue. Vous avez compris donc avec quoi ils sont sortis d'Égypte? Quelle est la richesse avec laquelle ils sont sortis? C'est là? Donc, ils ont libéré quoi, en fait? La Torah. Et c'est les noms, c'est la vérité. Ok. D'ailleurs, pourquoi il faut 50 jours après la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah? Pourquoi pas 38, 42? Ça veut dire que la Torah, elle vient de quel niveau? 50. D'accord? Elle est obligée de venir du chiffre 50. Vous vous rappelez du chiffre 50? Du cours de Hanouka, c'était l'au-delà. Je vous ai dit que 7 fois 7, c'est toujours 7, c'est toujours la nature. C'est 49. Au-dessus, c'est le 8, c'est le 50. Vous vous rappelez ou pas? C'est déjà passé? C'est déjà fini? Regardez le décalage. Vous vous rendez compte? Hanouka, c'était il n'y a même pas un mois. Fini. Je peux redonner le même cours? Ça me fait beaucoup de peine. C'est terrible. Ça veut dire que je suis un mauvais prof. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai une question primordiale qui se pose. Est-ce que j'arrête de donner des cours? Non, je rigole pas. Peut-être qu'il vaut mieux arrêter. Oui ou non? Il reste quelque chose, un petit peu, un petit machin? Bah alors, rassurez-moi. Qu'est-ce que c'est le chiffre 50? Bah, il y a fait. Ça veut dire que c'est l'infini béni soit-il. Comment est-ce qu'on l'appelle ce degré? Bina, vous vous rappelez? Le discernement. Donc la Torah vient de ce monde-là, très très élevé, pour descendre dans notre existence. D'accord? Donc, je suis un petit peu rassuré. On va faire mieux. Keshem Sha Neshama, Lamrod Govha Vegdulata. Donc, malgré le fait que la Neshama, notre Neshama, elle est très élevée, d'accord? Elle vient d'un monde élevé, d'ailleurs elle vient de ce chiffre 50. Eina yechola lekabel tosefet ve'ilui mibli leikanes ou leitlabesh beguf. Eh bien, cette neshama ne peut pas s'enrichir, en fait, dans ce monde, si elle ne rentre pas dans un corps de chair. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous êtes des neshamot dans des corps. On est d'accord? On est tous pareils. C'est une neshama qui est rentrée dans un corps. Donc là, qui parle à qui, en fait? C'est ma neshama qui parle à vos neshamot. On est d'accord ou pas? C'est juste à travers des corps. Ce sont juste des enveloppes.
Il y a un filtre.
Mais en fait, c'est ma neshama qui parle. Donc, vous pouvez absolument dire après le cours, au Rav Partouche, aujourd'hui, Yoel nous a fait entendre la voix d'une neshama. Ken, vous mentirez?
Non.
Dire comment ça, explique-moi. Oh, ça m'intéresse. Ben oui, il nous a parlé. Et alors? Ben oui, mais c'est sa neshama, c'est le verbe qui sort. Là, vous êtes en train d'entendre une neshama parler. Je sais que ça fait peur. Mais moi aussi, quand vous me posez des questions, c'est des neshamas qui me parlent. Si à chaque fois je me sors, pourquoi on est rassuré?
Il y a
fait parce que c'est encore dans un corps, encore et encore. Et donc, on est rassuré, calmé parce qu'il y a un Tzimtzoum. Donc la réponse de tout à l'heure à ta question. Dafka, précisément parce qu'il y a une enveloppe, ça nous rassure, on est tranquille. Imagine-toi maintenant, sans enveloppe, maintenant, je lui dis, allez, parle, et vous entendez un son juste à côté de moi qui vous dit, Shalom Kulam. C'est pas Ronnie, hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y en a qui vont sortir. Il y en a qui vont s'évanouir. Parce qu'il n'y a pas de corps qui contient. Et pourtant, quand je vous parle, ça fait une heure que je vous rabâche, c'est toujours une neshama qui vous parle et vous êtes rassuré. Parce que vous voyez un corps, ça vous rassure. C'est bizarre quand même, hein? Encore un paradoxe.
Si le corps, ça représente le Tsimtsoum.
Okay.
Alors, ça, entre guillemets, le corps, ça représente, représente l'Égypte.
D'accord. Mais tu vois, il fait. Il a fait, mon. Magnifique. Tout ce que tu viens de dire, c'est le Harizal. Dans ce Shabbat, Parashat Shemot, tu viens de comprendre les écrits du Harizal. Ve'ele Shemot bnei Israël abayi mitzraïma, c'est qui? C'est les Neshamot qui viennent dans des corps. Ah, alors qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? Non. Prochain épisode.
On dit qu'il faut vivre.
Il
faut vivre en même temps avec le corps et l'âme. Donc, en harmonie.
Et pourquoi tu as un choix?
Non, enfin.
Tu es toujours avec le corps et l'âme en même temps.
Oui, mais on dit qu'il ne faut vraiment pas, se séparer du corps.
Si tu te sépares, tu es mort.
Non, mais il ne faut pas vivre dans le ciel, c'est ça
que tu veux. Alors que l'Égypte, il faut vraiment s'en séparer, mais le corps, il faut vivre avec. Et... faut sanctifier le...
Ah, moi, je suis pas sûr. Traduis-moi le mot en hébreu sans mentir et sans te référer à ce que tu connais des définitions que tu as connues jusqu'à maintenant.
Avec mes mots.
Avec tes mots à toi, traduis-moi Yetziat Mitzrayim.
Yetziat Mitzrayim, c'est le fait de sortir du pays.
Non.
Sortir de l'impureté.
Non. Ça, c'est Yetziat mi Mitzrayim. Tu es d'accord?
C'est la sortie de
l'Égypte. C'est
l'Égypte qui sort. C'est fait. Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de l'Égypte elle-même. Ça veut dire qu'en réalité, on était censé faire élever l'Égypte elle-même et pas sortir d'elle.
Ah, donc élever le corps.
On a raté.
Exactement. On a raté quelque chose, bien sûr.
On est sorti,
mais on n'a pas libéré l'Égypte. Ben oui. C'est pour ça que Pharaon, il nous court après. Qu'est-ce qu'il nous dit? Libérez-moi! Pourquoi vous vous libérez tout seul et moi? Donc la prochaine Géoula, la dernière Géoula, elle va sauver qui en fait? Le corps, donc Mitzrayim. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une libération du corps. C'est ça la nouvelle Géoula. La Neshama, elle s'est déjà libérée en Égypte.
Ça veut dire que ce que voulait faire Yosef, c'était bon?
Il a fait. Il avait compris le sens, mais il fallait élever toute l'Égypte à un niveau de ciel en fait. Mais ça, c'est un cours pour un prochain épisode. Tu as une question? Merci. Toda Rabba.